Dans la ville de Varsovie, en Pologne, ville de 1,8 million d'habitants, la capitale de la Pologne, et la 8e plus grande ville de l'Union européenne, on voit une partie de l'impact de la crise humanitaire qui est en train de se développer en Ukraine. La Varsovie est se trouve à peu près 800 km de Kiev. C'est assez loin, mais le maire de Varsovie a fait appel vendredi au secours car 300 000 réfugiés sont déjà présents dans sa ville. On estime qu'en Pologne se trouve aujourd'hui 1,5 million des 2,5 millions des réfugiés ukrainiens. Qui est capable de concevoir ces 2 millions, 2,5 ou plus, ces millions de réfugiés ukrainiens? Est-ce que c'est possible que la Pologne, l'Allemagne, la France donnent une consolation? Un article de vendredi matin explique la situation. Et je cite, « Des bénévoles ont travaillé pour fournir une aide humanitaire aux réfugiés dans la ville de Varsovie, mais le maire a déclaré qu'il ne s'agissait que d'une solution temporaire, car les citoyens devront bientôt reprendre leur travail. » Selon lui, il a cité les psychologues comme l'un des postes qui se sont portés volontaires. D'autant plus que les nouveaux arrivants sont ceux qui ont vu de première main les destructions et les bombardements de l'Ukraine. Il dit ceci, c'est un genre de réfugiés complètement différent. Ils ont peur de tout, ils sont assis dans leur veste, les enfants ont peur, ils ne veulent pas jouer, leurs mères ont les yeux si vides. Se dit Dorotoa Zawadzka, une psychologue pour les enfants qui a fait du bénévolat, a déclaré ça. La communauté internationale a fourni une aide humanitaire à l'Ukraine, et à ses citoyens, certains pays ayant levé les exigences de visa afin que les réfugiés puissent fuir plus facilement. Fin de citation. La souffrance en Ukraine dépasse les capacités des systèmes et des structures en place pour répondre à une crise humanitaire à l'échelle de celle que nous voyons devant nos yeux aujourd'hui. Alors, je répète ma question, qui est capable de consoler ces millions de réfugiés ukrainiens? D'autant plus ceux qui ont pris le choix de rester dans leur pays. Si nous étions en Pologne, nous aurions accès peut-être à une voie d'entraide pour les réfugiés. Mais même si nous avons la possibilité d'apporter une consolation, que ça soit ici au Canada où on va accueillir les réfugiés, ou que ça soit par des organisations comme la Croix-Rouge, même si nous faisons notre part, ça nous dépasse. C'est pourquoi il est important de se souvenir que c'est Dieu qui est capable de consoler les démunis. Dans son épître aux Romains, Paul exhorte les frères et sœurs de l'Église de Dieu à soutenir les faibles. Il souligne au chapitre 14 que la faiblesse des faibles provient précisément du vague et de l'obscurité de leur foi en Jésus-Christ. Une foi faible ne donne ni certitude, ni paix, ni joie. Elle n'éclaire ni ne vivifie la conscience. Elle abandonne l'homme dans chaque cas donné à toute l'incertitude, à toutes les fluctuations d'une volonté indécise. Quand je lis cette expression, Et quand je considère la faiblesse mentionnée qui apporte à la foi, je considère un grand parallèle entre cette situation et la situation des démunis réfugiés ukrainiens. Quand l'homme souffre, toutes ses faiblesses sont dévoilées. C'est pour cela que Paul nous rappelle de la consolation que Dieu est capable de nous apporter. Quand nous passons par la souffrance, seulement Dieu est vraiment toujours capable de nous consoler. C'est quelque chose à se souvenir. Il dit au verset 5 du chapitre 15, Romains, l'épître aux Romains, chapitre 15 et le verset 5 et 6, Paul écrit ceci, « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ceci dit, frères et sœurs, Dieu nous promet ou permet de souffrir quand même. Dieu nous permet de souffrir quand même. Quand nous passons par la souffrance, nous avons parfois des questions. Comme je vous ai mentionné, c'est en ce moment-là que les faiblesses sont dévoilées. C'est en ce moment-là où nous nous postulons, nous considérons notre fort intérieur. Et nous avons souvent des questions, même des fois, il peut se produire des doutes. Mais notre foi ne devrait pas être ébranlée. Alors, aujourd'hui, considérant la nécessité de la souffrance et le miracle de la consolation de Dieu, il faut commencer ce type de serment avec un rappel que Dieu nous montre toujours l'exemple. La souffrance permet à nous de connaître la miséricorde et la consolation de Dieu dans sa totalité. En préparation pour la Pâque et pour la fête des pains sans levain, nous méditons la souffrance de Jésus-Christ, en particulier le soir de la cérémonie de la Pâque. Mais nous ajoutons à cette méditation les pensées de nos propres souffrances vécues, n'est-ce pas? Et de ceux qui souffrent dans le monde entier. Nous sommes dans un état, de deuil. Et si nous n'étions pas capables de comprendre les souffrances par l'expérience, nous n'arriverons pas à comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc, c'est un exemple très important pour nous dans notre compréhension de ce que Dieu a fait pour nous donner accès à la vie éternelle. En fait, dans ce cas-là, dans ce cadre, nos souffrances sont alors nécessaires, tout comme les souffrances de Jésus-Christ étaient nécessaires. Rien est en vain dans ces deux cas. C'est sûr que Christ a souffert des blessures physiques, considérant Ésaïe 53 et le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà des détails sur le fait que oui, les prophéties indiquaient que le Messie allait recevoir des blessures, des meurtrissures au niveau physique. Mais, encore une fois, pas en vain. Aussi, Christ a souffert des souffrances psychologiques. Ésaïe 53, de nouveau, quelques versets plus loin, le verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. était maltraité et opprimé. Pas simplement blessé physiquement, mais insulté, maltraité, opprimé. Puis, le Père a permis que Christ soit brisé pour un but particulier. Autrement dit, encore une fois, les souffrances de Christ, le Messie, n'étaient pas en vain. Considérons un autre passage, Ésaïe 53, un peu plus loin, versets 10 à 12. Il n'a plus à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. En ça, nous pouvons nous réjouir, n'est-ce pas? Et il se chargera de leurs iniquités. Encore une fois, un but particulier dans cette souffrance. Verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Nous, autrement dit. Ces passages, nous, que nous venons de lire, sont tous accomplis dans la vie de Jésus-Christ. Donc, considérons en ce moment sa réponse, quand Jésus s'est trouvé en plein milieu de la souffrance. Nous trouvons un passage dans le 22e chapitre de l'Évangile de Luc. Luc 22, nous avons ce moment de douleur, ce moment de souffrance ultime que nous pouvons souligner que c'est sûr que ce sont parmi les moments dans la vie de Jésus-Christ, la souffrance, c'est l'un des moments dans lequel il a souffert le plus, ou que nous avons au moins la capacité de comprendre sa souffrance. Verset 39, Luc 22. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Verset 42, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. On voit ici qu'il était dans un moment de souffrance, de besoin. Puis, verset 44, « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Donc, voyons les souffrances de Jésus-Christ, les souffrances mentales. En ce moment-là, il n'avait pas dans son corps des blessures, des meurtrissures, mais il souffrait, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ, encore une fois, a souffert pour nous, à notre place. Christ est le pain de vie. La rupture du pain dans la cérémonie de la Pâque est symbolique du fait qu'il était brisé et de sa souffrance à notre place. Le pain est également symbolique du Christ vivant en nous et de notre besoin de vivre selon chaque parole de Dieu. La flagellation que le Christ a endurée sert aussi à guérir nos maladies, tout comme mentionné en Ésaïe 53. Maintenant, nous avons plusieurs exemples dans la Bible de ceux qui ont persévéré malgré les souffrances. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'exemple de l'apôtre Paul, parce que, bien sûr, Dieu nous démontre un exemple parfait en Jésus-Christ, Et mais ce que nous trouvons dans la vie de Paul, c'est quelque chose qu'un homme a vécu en essayant de servir Dieu, de faire l'œuvre de Dieu, et tout en expliquant ses souffrances, et tout en remerciant les frères et sœurs aussi de leur soutien parmi ses souffrances, à travers ses souffrances. Donc, Paul nous sert comme bon exemple aussi de traverser des difficultés avec en tête le soutien de tout le monde, avec le soutien de l'Église derrière lui. Dans 2 Corinthiens, Paul, l'apôtre, a dressé une liste des épreuves et des difficultés qu'il a traversées. 2 Corinthiens 11, considérant les versets 23 à 27. 2 Corinthiens 11, versets 23 à 27. Paul explique ici, verset 23, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux. » Parce qu'ici, Paul s'adresse à des faux prophètes, à des faux docteurs qui sont parmi les frères et qui essayent de saper le ministère de Paul dans l'assemblée à Corinthe. Donc, Paul s'adresse à ces personnes et à toute l'assemblée pour dire clairement que lui, quand même, ses souffrances ne sont pas en vain et il est au courant de ce qui se passe, que même au chapitre 11, verset 14, il dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». Donc, il y a des personnes qui se sont déguisées pour aller contre le ministère de Paul. Et dans ce contexte, Paul dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Il explique un peu ses souffrances. Je le suis plus encore. Je suis quoi? Je suis ministre de Christ. C'est ça. Donc, je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes, multiplié au froid et à la nudité. » Donc, voyons une liste très longue et très détaillée des souffrances de l'apôtre Paul. Les souffrances pour le but, dans le but et dans le contexte d'être un ministre pour Jésus-Christ et d'annoncer, bien sûr, la bonne nouvelle à ces personnes de par le monde. Donc, c'est ça que Paul a dit quand il a mentionné que, lui, il a fait son service pour Christ et il a reçu, malgré ses efforts, et plutôt avec ses efforts, il a quand même reçu des souffrances. Donc, Paul est en train de dire que, oui, il a souffert, mais, encore une fois, c'était avec le but particulier d'accomplir la volonté de Dieu. Et donc, en lisant cette liste de choses, Paul a pu traverser, nous voyons qu'il a souffert. Et en plus de tout cela, il avait la responsabilité de gérer les congrégations dans le monde des gentils. C'est mentionné ici parce qu'il se réfère souvent à l'Église. Et donc, au début de cet épître, le deuxième épître aux Corinthiens, Paul écrit des effusions de reconnaissance pour tant de consolations. reçu dans ces épreuves. Dans ces épreuves dont nous venons de lire au chapitre 11. Et donc, il souligne le fait que ces consolations abondent avec ces afflictions. Et Dieu fait tourner les unes et les autres au bien spirituel des Corinthiens. Maintenant, considérons 2 Corinthiens, chapitre 1. Nous avons la souffrance mentionnée ici, et nous pensons à ces souffrances de Paul, mais maintenant, peut-être, c'est le moment de penser un peu plus personnel, n'est-ce pas? C'est la souffrance dans nos vies que nous avons à considérer aussi. Pourquoi Paul a souffert? Oui, parce qu'il y avait besoin de prêcher l'Évangile. Il y avait une sorte de force qui a résisté ces choses. On peut comprendre ça. Mais si on fait la volonté de Dieu et on vit aujourd'hui dans notre époque moderne, des fois on se demande pourquoi toutes ces souffrances. Mais il est certain que les choses n'ont pas changé. Nous devons aussi persévérer parce que nous portons le nom de Jésus-Christ. Et même Christ a mentionné qu'on sera persécuté à cause de son nom. Pas à cause forcément de ce que nous avons fait, mais à cause du fait que nous sommes associés avec lui par notre croyance et aussi par nos actions, par notre comportement. Ça, en fait, apporte certaines persécutions, mais ce n'est pas seulement la persécution qui définit la souffrance humaine. On a quand même des souffrances au niveau du corps physique, au niveau mental. On a nos blessures, on a nos afflictions, et on a aussi nos pensées, nos craintes, nos inquiétudes. Et donc, voilà, il y a une souffrance humaine qui existe quand même, même si nous faisons partie de l'Église de Dieu. Donc, pour ceux qui avaient peut-être pensé qu'après avoir eu la possibilité de se rejoindre à l'Église, que la vie serait parfaite après, peut-être on a tous appris la leçon que la Bible a toujours raison, que même les chrétiens, que même les membres de l'Église vont passer par des épreuves, vont souffrir. Et la question, c'est comment est-ce que nous allons réagir. Donc, pour mieux réagir, pour mieux nous préparer ce processus de souffrance et de consolation, c'est peut-être utile de considérer des points qui, pour nous aident à comprendre que la souffrance a un but. Donc, nous avons déjà évoqué le fait que Paul le confirme, que oui, la souffrance permet une sorte de connaissance de la miséricorde et la consolation de Dieu. Nous pouvons comprendre par la souffrance que Dieu est quand même miséricordieux et c'est lui qui va nous consoler. Donc, lisons maintenant le verset 3, ici, de 2 Corinthiens, chapitre 1, et le verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Donc, un commentaire biblique explique ceci à propos de ce verset. « La souffrance nous enseigne deux leçons essentielles. Elle permet de mieux comprendre l'appel de Dieu, de cesser de faire confiance aux hommes, comme mentionné, et elle rappelle avec force la vérité du psaume 107. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Donc, pour ce commentaire, il y a deux points liés ici pour la souffrance. C'est deux leçons essentielles mentionnées. L'idée de comprendre que nous ne pouvons pas mettre notre confiance aux hommes, même en nous-mêmes, quand je dis aux hommes, Nous sommes compris là-dedans. Et deuxièmement, c'est de crier à l'Éternel. L'idée de crier à lui pour notre délivrance. C'est une sorte de changement d'orientation dans la vie. Nous poursuivons notre petit chemin, et puis avec la souffrance, on se dit « Oh, j'ai vraiment besoin de me tourner envers lui ». Donc voilà, c'est un commentaire qui a mentionné ces deux leçons. Mais il est intéressant de noter que le mot « consolation » se trouve à 28 reprises dans cette lettre, dans la deuxième épître aux Corinthiens. Sa fréquence indique certainement que le sujet occupait une grande place dans la pensée de Paul, et nous avons déjà lu une partie du chapitre 11. Mais c'est intéressant que le mot grec pour consolation, est-ce que vous le savez déjà, c'est le mot paraklesis. Est-ce que ça vous rappelle de quelque chose? Peut-être parakletos, le mot pour l'esprit, le confort, celui qui est capable de nous conforter, c'est Dieu, par la puissance de son esprit, le paraklesis. Donc, l'idée de paraklesis, c'est l'idée d'un réconfort apporté par la présence d'une personne appelée à venir en aide. Et c'est ça notre premier réflexe, n'est-ce pas? C'est de se mettre à genoux et d'appeler au Père en disant, en expliquant nos souffrances. Donc, très intéressant que 28 fois, cette consolation est mentionnée. Donc, si Paul a mentionné plusieurs souffrances, il a également mentionné plusieurs fois le besoin et la nécessité et le pouvoir de Dieu de nous donner un réconfort, une consolation par la puissance de son esprit, que ce soit avec nous, si nous ne sommes pas baptisés, ou que ce soit en nous, si nous sommes baptisés et membres de l'Église de Dieu. Les deux cas sont vrais. Il est capable de conforter ceux qui sont dans le monde. Il n'y a pas une nécessité d'être membre de l'Église pour que Dieu apporte une aide, un confort à quelqu'un. Et c'est pour ça que nous prions avec certitude dans le pouvoir, dans la possibilité, dans la capacité de Dieu. Nous prions avec certitude que Dieu peut consoler ceux qui souffrent aujourd'hui. Donc ça répond un peu à ma question. Qui peut consoler tous ces réfugiés qui viennent de l'Ukraine pendant ce temps de guerre? C'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est notre, même s'il y a des organisations, même s'il y a l'ONU, c'est possible que l'homme s'organise pour combler le besoin, mais c'est Dieu qui est vraiment capable. Ces souffrances du monde dépassent la capacité pour l'homme de résoudre toutes ces souffrances. Mais Dieu va le faire dans son temps. Une deuxième chose constructive, si vous voulez, par rapport à la souffrance, c'est que Dieu permet l'affliction pour nous apprendre à compatir à ceux qui souffrent. Et souvent, quand je reçois un appel, quand je parle avec quelqu'un qui souffre, tout de suite, dans ma tête, je me souviens de ce verset 4, de Corinthiens 1, le verset 4. Ici, c'est « qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Donc la souffrance ici n'est donc pas un signe de la désapprobation de Dieu, elle constitue plutôt une préparation pour notre capacité de réconforter d'autres personnes, pour être compatissant envers les autres. L'idée de compassion, c'est nous avons appris quelque chose par l'expérience qui nous permet de rendre service à quelqu'un d'autre en amour. C'est ça la compassion, c'est un amour qui est rempli d'expérience. On partage certains liens par l'expérience commune avec quelqu'un. Donc on peut être compatissant. Et des fois, nous ressentons notre insuffisance en la présence d'une personne affligée, parce que c'est vrai que nous n'avons pas tous vécu toutes les souffrances. Et on ne peut pas être compatissant, par exemple, dans la même façon. On ne peut pas vraiment comprendre à 100% la souffrance de quelqu'un d'autre qui vit dans sa vie une souffrance que nous n'avons pas vécue. Mais nous pouvons quand même essayer d'offrir, avec l'aide de Dieu, une compassion, une compatissance, une aide, un amour pour notre prochain. Par exemple, moi, je connais pas du tout la guerre dans mon pays à moi. J'ai connu d'autres endroits dans le monde que j'ai visités où la guerre existait, où j'ai vu les résultats de la guerre. Et donc, aujourd'hui, on voit ça, mais on peut pas vraiment comprendre à 100% ce que c'est d'être réfugié, par exemple, si on n'a jamais vécu ceci. Mais par contre, ce que nous pouvons faire, c'est on peut comprendre que Dieu est capable de consoler complètement ces personnes. Mais dans les cas où nous passons par la souffrance, c'est une opportunité pour nous d'être plus compatissants envers d'autres. Même Jésus-Christ a vécu la souffrance. Et avec ce qu'il a vécu, la Bible nous dit qu'il est capable de mieux de comprendre nos souffrances. Je ne veux pas me reporter là, mais Hébreux 2, verset 18 nous dit car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc il a passé par la souffrance. Et il a été tenté, et il est là pour nous secourir aussi. Donc notre relation avec Christ, c'est son amour pour nous, c'est un amour de compatissance. Il est compatissant envers nous. Il comprend la souffrance par ses propres expériences. Donc notre capacité de compatir aux souffrances des autres découle de notre propre expérience lorsque nous avons passé par des épreuves. Un autre point, c'est que Dieu promet une consolation pour toute affliction. 2 Corinthiens 1 et maintenant le verset 5 à 6, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Donc ici, dans ces quelques versets, Paul est en train de faire un lien entre ses souffrances et les souffrances de ceux qui sont à Corinthe. De dire que nous en faisons tous partie de la même Église, donc quand l'un d'entre nous souffre, nous souffrons tous. Mais par contre, quand l'un d'entre nous est consolé, il est capable d'être une force de consolation envers les autres. Et c'est ça que les Corinthiens ont fait envers Paul, c'est qu'ils étaient en train de démontrer un amour fraternel pour Paul dans ses souffrances. Donc, on n'a jamais à craindre des épreuves trop difficiles. La Bible nous dit que Dieu ne va pas nous donner des choses qui sont trop pour nous de supporter. Mais il est vrai que certaines personnes souffrent plus que d'autres. Nous n'avons pas tous passé par les mêmes souffrances. Donc, certaines ne peuvent pas, comme je vous ai mentionné, ne peuvent pas complètement comprendre les souffrances de quelqu'un d'autre. Mais par contre, si on ajoute tous les membres de l'Église, on a quand même un paquet d'expériences, un paquet de compréhensions Et c'est ça la force derrière nous, quand on est ensemble, quand on est unis dans le corps de Christ, dans l'Église, c'est que en ajoutant notre vécu, notre souffrance, notre expérience, notre foi, la consolation gagnée, alors nous devenons une force pour le bien. Donc ce n'est pas un homme qui est tout seul isolé, ou une famille qui est toute seule isolée, mais c'est un partage, c'est un corps uni et tissé ensemble. Et nous sommes quand même mieux tissés ensemble quand nous avons partagé entre nous nos souffrances. Donc Dieu veille avec un grand soin pour chacun, sur chacun de ses enfants, et il ne permet pas que ses enfants soient éprouvés au-delà de leurs forces. Donc il donne des épreuves, mais il donne aussi des moyens de supporter des épreuves de la vie. Sans Jésus-Christ, la souffrance semble absurde et injuste. Sans connaître la vérité, sans savoir qu'il y a un monde meilleur qui est prévu déjà depuis la fondation du monde, alors nous n'avons pas une approche juste aux souffrances. Je pense que plusieurs personnes posent cette question, pourquoi les souffrances? Parce qu'ils ont déjà en tête que les souffrances du monde sont en vain. Mais je suis très content que depuis des années dans l'Église, nous avons des brochures, des articles, des sermons, tout pour répondre à cette question. C'est l'une des voies les plus intéressantes pour les gens qui souffrent de découvrir la vérité. Donc, encore une fois, j'ai pas préparé mes notes pour dire ça, mais encore une fois, il y a un exemple de pourquoi la souffrance est utile. C'est parce que c'est une autre façon que Dieu peut nous ramener si on est à l'extérieur. Il peut s'en servir de la souffrance pour appeler une personne dans l'Église. Donc, si nous comprenons le but ultime de la vérité, le plan du salut, on voit au-delà de nos souffrances, on voit au-delà de la fin de cette vie physique, et on comprend que ça fait partie d'un grand ensemble que Dieu est en train d'effectuer. Un autre point, c'est que la souffrance peut agir pour le réconfort des autres. C'est ça mentionné déjà au verset 6. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Donc, l'exemple d'un chrétien, d'un membre de l'Église dans la souffrance peut aussi rendre un témoignage beaucoup plus frappant que celui de ses paroles. Des fois, on a envie de partager ça par nos paroles, mais on ne comprend pas la profondeur de notre exemple juste en passant par des souffrances avec une bonne perspective, avec une approche de foi en Dieu et de confiance en lui. Ça, c'est puissant. Quand on voit quelqu'un, peut-être une veuve de plusieurs années, qui reste fidèle, qui a perdu beaucoup dans sa vie, même peut-être elle est toute seule avec très peu d'assistance de la famille, mais elle est quand même, quand on leur rend visite, elle est confiante, elle est dévouée, elle est quand même dans la joie de connaître la vérité. C'est un exemple frappant. Et souvent, nous, quand nous avons le plaisir de faire des visites chez ce type de personnes, et on voit que cette personne a perdu leur mari, a perdu un enfant, par exemple, n'a pas une bonne santé, a une vie qui est assez difficile, alors c'est inspirant de voir cette personne qui souffre, qui est en train de rendre grâce à Dieu pour ses bénédictions. Donc, des fois, en essayant d'être un consolateur envers quelqu'un comme ça, c'est l'exemple parlant de cette personne qui réagit beaucoup plus fort que nos propres paroles. Et on voit un effet inverse, que nous partons de cette visite avec beaucoup plus d'encouragement que quand nous sommes arrivés. Donc voilà, nous pouvons garder cette perspective de souffrir pour le bien des autres. Dans Colossiens chapitre 1 et le verset 24, et ceci dit, Jésus a accepté de subir des souffrances les plus atroces pour nous procurer une opportunité d'entrer d'avoir le salut et d'entrer dans la vie éternelle de recevoir cet héritage. Donc c'est ça, il a accepté cette souffrance pour un but plus grand. Donc Colossiens chapitre 1, verset 24, Paul écrit ceci: « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. » Donc Paul voit plus loin que sa propre vie. Il comprend que ses souffrances peuvent réconforter les autres. Donc il le fait, il l'accepte pour le corps, pour l'Église de Dieu. Et c'est son perspective qui l'a permis de continuer malgré ses souffrances, malgré tout ce que nous avons lu dans le 11e chapitre de 2 Corinthiens. Maintenant, l'affliction développe des qualités spirituelles. Nous avons tous besoin de développer un caractère qui correspond à Jésus-Christ et son caractère. Nous pensons souvent aux béatitudes. Parmi les béatitudes sont mentionnées dans Matthieu 5, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui sont humbles, ceux qui sont pauvres. Ce sont des types de souffrance. Et avec chaque béatitude, il y a une promesse. Une promesse qui surmonte, qui est au-delà de toute cette souffrance. C'est une consolation, on peut le regarder comme ça. Je prends le temps de lire une partie de Matthieu 5. C'est très intéressant quand on le prend avec cette perspective de voir une souffrance et de voir la consolation que Dieu est capable de nous donner. Et ça commence au verset 3 de Matthieu 5. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc, si on découpe chaque phrase en deux, on a une sorte d'attitude de souffrance et on a une sorte de consolation avec. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et puis, verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et puis finalement, ça englobe tout, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc, ce que nous ressentons dans le contexte du serment aujourd'hui, quand nous lisons les béatitudes, c'est beaucoup, beaucoup de consolation en préalable, offert par Dieu. Et donc, ce sont des promesses. Ce sont vraiment des promesses sur lesquelles nous pouvons nous reposer. Donc, la consolation mutuelle de Paul et la congrégation de Corinthe se manifestait par leur même persévérance face aux épreuves. Et ce mot « patience » que nous avons lu, si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience. Donc, revenons en 2 Corinthiens 1, pour que nous soyons dans ce chapitre de nouveau. C'est quand même quelque chose qui lie Paul avec les autres membres de l'Église. C'est un partage, encore une fois. C'est quelque chose qui est qu'ils vivent ensemble. C'est pas un sentiment que Paul est tout seul, isolé, il fait ses affaires et après il revient et il s'est distancié des gens. Non, c'est une approche de proximité, c'est une approche de mutuelle consolation qui est importante à Paul et aux Corinthiens. Donc ici, au verset 6, « Si nous sommes baptisés, c'est pour votre consolation, et pour votre salut, si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience, c'est ça, à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » Donc ce mot « patience », on l'a déjà vu, signifie de demeurer sous le poids d'une charge ou face à la difficulté. C'est l'idée de persévérer et de continuer à porter une sorte de charge, de faire sa part, malgré la difficulté. Quand on considère que Christ a souffert pour nous, il a souffert, il a porté une charge à notre place. Et quand on est appelé, on quitte la voie du péché pour avoir accès à la voie qui mène à la vie. Et c'est avec ça que Christ accomplit cette ouverture à la vie éternelle. Donc, c'est quelque chose qui se développe en nous et nous sommes capables de développer des qualités spirituelles que nous appelons souvent le caractère de Dieu ou le caractère divin. Et en plus, et comme je vous ai déjà mentionné, la souffrance sert à tourner nos yeux vers Dieu. Que nous soyons à l'extérieur de l'Église et nous ne connaissons pas la vérité, ou que nous soyons des membres de longue date, la souffrance sert à tourner nos yeux envers Dieu. Versets 8 et 9 de Corinthiens chapitre 1. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort. Et puis plus loin, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Donc, la perspective de Paul est très puissante. Hein. C'est jusqu'à la mort. Il a confiance jusqu'à mettre sa vie entre les mains de Dieu. Pour dire qu'il va servir Dieu, il va faire la volonté de Dieu, même si la vie est à risque. Donc, c'est ça. Ses yeux sont tournés envers Dieu, et nous aussi. Nous avons la possibilité, dans la souffrance, de se souvenir des promesses de Dieu et de demander à lui de l'aide. C'est quelque chose qui est très frappant quand nous considérons, en préparation pour la Pâque, l'histoire de l'ancien Israël et le livre d'Exode, un peuple qui était en Égypte pendant plusieurs siècles, qui avait à peu près oublié les patriarches et qui avait à peu près oublié les coutumes et la pratique et qui avait inculqué la religion des Égyptiens dans une sorte. Et puis, quand le pharaon a changé, qu'est-ce qui s'est produit? Alors, ils ont crié, ils ont tourné les regards envers le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de leur père. Et c'est ce Dieu, le seul Dieu, c'est lui qui a répondu aux besoins. Ce n'est pas les dieux égyptiens, les faux dieux égyptiens, mais c'est Dieu qui a répondu. Et il savait que ces choses allaient se passer, que le peuple allait se souvenir de lui en Égypte. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les choses ont changé ce peuple souffrait, hein, tout un peuple, pas juste une personne, mais tout un peuple qui souffrait. Et puis, c'est en ce moment-là que les cris montaient à l'Éternel. Donc, la fiction nous donne aussi la possibilité, la souffrance, à tourner notre regard envers Dieu. Maintenant, la fiction nous donne l'occasion de voir Dieu à l'œuvre pour répondre à nos prières. Quand nous tournons nos regards envers Dieu, quand nous levons les yeux et considérons les besoins, nos propres besoins et sa réponse, alors nous nous mettons à prier. Et versets 10 et 11 sont un peu la fin de ce boucle, si vous voulez, de ce petit passage entre le verset 3 et 12, qui vraiment, ça complète le boucle pour ajouter à toutes ces leçons le besoin et l'importance de la prière. Donc la vie qui procède, on va dire, on marche à genoux. C'est-à-dire, on va marcher à genoux parce qu'on va marcher en priant. On va prier lorsque nous avons devant nous la souffrance dans la vie, lorsque nous voyons les autres qui souffrent aussi. C'est un réflexe que Paul considère déjà développé dans la congrégation à Corinthe. Et c'est ça qui est encourageant, parce que Paul, plusieurs fois, il est plus fort à cause des prières de cette congrégation. Et il se réjouit de leur conversion, de leur repentir, parce qu'il y avait des vrais problèmes quand Paul a envoyé son premier épître, et puis il y a eu une repentance qui s'est passée, et il a mentionné ça ailleurs, que voilà, il a vu par les rapports de Tite, il a pu comprendre que les choses ont bien changé dans cette congrégation, que la congrégation entière s'est repentie et a changé de direction. Mais ce point ici, c'est lié à la prière. C'est lui, verset 10, qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Donc il y a deux volets dans ces quelques versets. Le premier volet, c'est les prières de toute l'assemblée pour l'apôtre Paul. Ça, ces prières achevées, ils ont quand même servi de renforcer et de guider, d'encourager Paul. Donc Dieu a plusieurs fois, il intervient pour Paul dans ses souffrances. Et dans l'autre sens, quand Paul dit voilà ce qui s'est passé, Dieu a intervenu pour moi et il a fait ceci, il nous a sauvés de ça, il nous a évités à mourir quand on a eu des naufrages. Quand il fait ses reportages, si vous voulez, c'est une occasion, dans le deuxième volet, pour la congrégation et tous, pas seulement Paul qui l'a vécu, mais d'autres, de rendre grâce à Dieu. Toute la gloire, c'est à Dieu. C'est pas Paul qui cherche la gloire dans ses faits, dans ses accomplissements, dans ce qu'il a fait. C'est béni soit Dieu. C'est comme ça qu'il commence son passage. Béni soit Dieu. C'est pas l'idée de dire que non, c'est moi qui a fait ça, c'est moi qui a accompli ceci. Mais Paul, ça s'identifie avec la congrégation ici. Et ces lignes ici contiennent des pensées très intéressantes, parce que Paul reconnaît que sa délivrance en Asie était l'œuvre de Dieu. Et c'est quelque chose qu'il reconnaît. Mais il reconnaît aussi le rôle important des Corinthiens dans sa libération, grâce à leur prière. Et enfin, l'apôtre note que Cette délivrance doit servir surtout à glorifier Dieu par le moyen des actions de grâce de chacun. Donc, quand on est au courant des miracles et des prières exaucées de nos frères et sœurs, on peut tous rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde et sa consolation, justement. Mais s'il n'y avait jamais un besoin, ça serait pas le réflexe, n'est-ce pas? On serait pas capable d'avancer dans cette possibilité-là. Donc, nous sommes instruits à plusieurs reprises dans la parole de Dieu de construire notre vie sur la foi. Et c'est dans la souffrance que notre foi, des fois, est mise à l'épreuve. Notre foi est testée. Là, on a l'occasion d'employer les outils que Dieu a mis à notre disposition pour croître. Mais c'est comme un soldat qui est chez lui. Il ne peut pas employer ses armes, c'est ça. Il ne peut pas employer, si vous pensez à Éphésiens 5 comme moi, alors si on n'a jamais l'occasion de mettre en œuvre tout ce que Dieu a mis à notre disposition, comme les armes de Dieu, on ne va pas pouvoir les mettre à l'œuvre. On ne peut pas s'entraîner avec les choses que lui nous a données. Donc, il a donné ses outils afin que nous les utilisons. Et c'est l'idée de mettre en œuvre notre foi quand on est dans le besoin. Et c'est tout un processus de il peut nous renforcer et c'est ça, c'est par exemple Éphésiens 6 pour l'armure du chrétien. Et l'idée c'est d'être fortifié, pas tout seul, mais en faisant partie du corps de Jésus-Christ, de l'Église. Et donc l'idée d'avoir ces armes, cette armure, c'est d'être fortifié dans le Seigneur, comme c'est mentionné en Éphésiens 6. Si on se réveille de toutes ces armes, c'est l'idée de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, mais aussi c'est de pouvoir croître. Et de ne pas être laissé pour lâcher dans les moments de difficulté. Donc, les souffrances ont bien un but dans notre vie. Quand nous souffrons, continuons à faire de bonnes œuvres, continuons à vivre la vie chrétienne comme en faisant les choses comme l'exemple de Jésus-Christ. Des fois, quand on passe par la souffrance, on a l'impression que tout est à l'arrêt, et des fois le corps n'est même pas capable d'aller plus loin, mais dès que c'est possible, nous devons essayer de reprendre notre activité et de continuer, comme par exemple à étudier la Bible. Si nous souffrons, c'est en ce moment-là. C'est pas le bon moment dans la souffrance de dire « je suis trop fatigué pour lire la parole de Dieu », mais c'est un moment de doubler notre effort à étudier et à rester les yeux fixés sur ses promesses. Et donc, plusieurs psaumes sont très encourageants, et plusieurs exemples sont très encourageants pour ceux qui sont dans la détresse. Et donc, quand nous souffrons, continuons à méditer ce que Dieu a promis. Il y a beaucoup de promesses très claires dans la Bible, des promesses faites pour Israël, des promesses faites pour les individus. Et c'est pas juste quelques promesses droite à gauche, mais c'est vraiment un ensemble de promesses et tout un plan que nous connaissons, que Dieu révèle à nous par ses jours saints et son plan de salut. Et quand nous souffrons, continuons à demander à Dieu d'augmenter notre foi et de construire en nous son caractère. Donc nous avons notre part aussi, si nous comprenons le but de la souffrance et que c'est un processus de souffrance et consolation, nous avons quand même des choses pratiques que nous pouvons faire lorsque nous sommes toujours en train de passer par la souffrance. Dieu se sert de nous comme un exemple. Et dans cette vie physique que nous vivons maintenant, nous allons voir la souffrance. Nous avons, c'est un peu intégré en nous, parce que quand même l'âge, la vieillesse aussi, ça peut devenir un lieu de souffrance parce que on peut avoir plus de problèmes de santé, on peut avoir plus de craintes, plus d'inquiétudes. Mais Dieu est là avec nous pour chaque pas, pour chaque moment et pour chaque phase de notre vie. Il est là pour nous. Et donc, c'est en tournant notre regard envers lui que nous allons pouvoir profiter de ces moments pour croître dans la foi, pour renforcer notre caractère qui ressemble à Jésus-Christ. Et en préparation aussi pour le monde à venir, pour le royaume de Dieu et pour régner avec Jésus-Christ. Il ne faut jamais oublier cette perspective que chaque chose qui nous met devant nous aujourd'hui, c'est une opportunité de comprendre et d'être plus compatissant envers ceux qui auront la possibilité de vivre physiquement dans le monde à venir, parce que nous serons changés. Donc, ceci nous donne aussi une autre voie d'utiliser la souffrance, de profiter de la souffrance. C'est dans préparation pour ce rôle que nous aurons lors du retour de Jésus-Christ pour établir son royaume ici, ici-bas, sur la terre. Donc, si les souffrances de cette vie, des fois, sont nombreuses, si les souffrances sont difficiles, et ils le sont, alors c'est pour un but, ce n'est pas en vain. Dieu est là comme consolateur et il nous prépare pour devenir des consolateurs dès maintenant. Paul écrit ceci à Corinthe, pas pour juste le monde à venir, mais pour qu'il commence déjà à pratiquer ces choses, à mettre en pratique cette voie de la consolation. Donc, on peut commencer, si vous voulez, aujourd'hui, j'ai commencé en mentionnant beaucoup de souffrances. J'ai commencé en mentionnant la souffrance de ceux qui se fuient de l'Ukraine et de mentionner aussi la souffrance de Jésus-Christ, la souffrance de l'apôtre Paul. Mais j'espère qu'en terminant maintenant, nous avons en tête aussi vraiment un équilibre, même une abondance de consolation qui dépasse toute la souffrance du monde. C'est ça, en fait, ce que nous comprenons quand nous lisons Romains, par exemple, Romains 8:28. C'est nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est ça. Parce que nous avons cette perspective d'être appelé, d'être justifié et un jour d'être glorifié, de pouvoir hériter ce que Dieu est en train de préparer pour nous. Donc c'est par la souffrance que nous allons entrer dans la gloire. Donc n'oublions jamais que la souffrance est prévue, que la souffrance a un but et que Dieu est le Dieu de toute consolation.